Lui, c'était un bûcheron. Il avait les mains rudes et un cœur de pierre. Elle, c'était une guérisseuse. Elle avait le regard triste et le cœur gelé.
33e édition du festival Conteurs en campagne du 27 septembre au 9 novembre de Frémicourt à Quillem, de Bourthe à Croix-du-Bac, en passant par Ouve-Virquin ou encore Roquetoire. Pour en parler, on accueille Tony Avard. Salut!
Bonjour!
Tony Avard, coordinateur du festival pour les foyers ruraux 59-62. Alors justement, est-ce qu'on peut rapidement présenter à nouveau cette fédération d'associations, les foyers ruraux 59-62?
Oui, c'est une fédération d'éducation populaire qui, comme beaucoup d'autres fédérations, est née dans l'après-deuxième guerre mondiale. Sa particularité, c'est que, comme son nom l'indique, c'est une fédération qui promeut l'animation et le développement du milieu rural par le développement des associations. Donc notre réseau dans le Nord et le Pas-de-Calais, il comprend une petite soixantaine d'associations qui ont toutes comme objectif d'animer leur village par le biais du bénévolat, et ça va passer par des associations pluridisciplinaires ou par des associations plus thématiques. Donc ça va du sport, culture, loisirs, environnement, action jeunesse, action envers le troisième âge. En fait, c'est vraiment très pluridisciplinaire, comme je le disais. Notre objectif à nous, fédération, c'est d'aider ces associations locales à mener à bien leurs projets, en les aidant par de l'ingénierie, parfois par des financements, des coups de pouce, par de la formation de bénévoles également.
Puisqu'on parle de la vie associative en milieu rural, on voit quand même qu'il y a beaucoup de difficultés dans les associations culturelles, sociales en France et en particulier dans la région. Comment tu vois un petit peu la situation actuelle des associations en milieu rural? Est-ce qu'il y a un renouvellement ou est-ce qu'il y a aussi des grosses difficultés?
En fait, on est un peu dans deux types de difficultés qui peuvent se compléter. Effectivement, il y a le contexte budgétaire qui fait que beaucoup d'associations, de structures culturelles notamment, parce que j'ai l'impression que la culture, c'est un peu la double peine, pâtissent de ces conditions budgétaires, de la baisse des financements pour mener à bien leurs actions. Et puis, parallèlement à ça, on a aussi dans le tissu associatif une difficulté à renouveler les dirigeants associatifs, liée peut-être à plein de raisons. En tout cas, dans nos associations rurales, c'est vrai qu'on constate ça. On constate un retour comme quoi c'est difficile de renouveler les dirigeants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de bénévoles. Au contraire, des bénévoles, il y en a plein quand on organise une manifestation locale, mais c'est plutôt sur le renouvellement des dirigeants. Donc ça, c'est les deux difficultés auxquelles on doit faire face, effectivement. Mais en même temps, des opérations comme celle dont je viens parler aujourd'hui, Conteur en campagne, on voit que malgré les difficultés liées à son financement, les associations locales y sont toujours attachées et souhaitent toujours qu'elle arrive dans leur village, même si pour cela, elles doivent participer un petit peu plus financièrement à son accueil.
À part ce festival, il y a d'autres actions qui sont mises en œuvre par cette fédération des foyers ruraux. Un petit mot encore avant d'arriver au festival. Ces actions, c'est l'accompagnement, tu en as parlé. Il y a aussi Rural Livre. Il y a le BAFA que vous proposez, c'est ça, aux associations. Donc le diplôme d'animateur, le brevet d'animateur, c'est ça. Et puis une action aussi contre le harcèlement, c'est ça?
Oui, ça c'est une action qu'on a commencé à expérimenter l'an dernier. En partenariat avec le département du Pas-de-Calais, puisque on est conventionné pour les actions envers la jeunesse avec le département du Pas-de-Calais. Donc c'est une action qui est reliée étroitement à l'action Rural Livre en littérature jeunesse. Le principe de cette action, c'est que on débarque dans un collège et on mène de pair avec un groupe classe On le divise en deux et il y a une partie du groupe qui va avoir une sensibilisation au harcèlement par le biais d'un débat avec de la diffusion de petits films, donc quelque chose d'assez classique en termes de des débats, d'échanges avec les élèves, et une autre partie du groupe qui va avoir un atelier de lecture à voix haute où on va partir d'ouvrages jeunesse que les jeunes sur ce thème-là du harcèlement. Donc voilà, les deux groupes en parallèle suivent ces deux ateliers et ensuite on inverse évidemment les groupes. Donc l'idée c'est de libérer la parole d'une part et puis d'autre part d'avoir cette sensibilisation à l'importance de la lecture à voix haute, de comment finalement on s'adresse à un public. Donc c'est une action qu'on a expérimentée là l'année scolaire dernière et qu'on va recommencer à mettre en place dans d'autres collèges du département à partir d'octobre-novembre.
On arrive au Festival Contors en Campagne avec cette année une édition, je ne sais pas si c'est un peu spécial, mais en tout cas l'édito le met en valeur. Donc il y aura un hommage à quelqu'un qui était un compagnon de route de votre festival, Jean-Yves Vincent. Alors, Tony, est-ce que tu peux nous redire qui était Jean-Yves Vincent et son importance pour ce festival.
Alors, au-delà même du festival, c'est quelqu'un qui a été important, j'allais dire, pour la ruralité aussi dans le département, puisque en fait, il a été le fondateur d'un journal qui était associatif à l'époque, qui s'appelait l'Écho Rural, qui est devenu l'Écho du Pas-de-Calais. Voilà, il n'était plus la rédacteur en chef actuellement, puisqu'il était à la retraite. Jean-Yves, il a fait un travail énorme de collectage en milieu rural sur des savoir-faire, sur la langue picarde, sur des tas de sujets de par sa place aussi à l'Écho Rural. Et puis pour le festival plus particulièrement, il était lui-même conteur, il avait un gros travail de formation et il a soutenu ce festival Conteurs en Campagne depuis sa création en 1993, d'abord par le biais de l'Écho du Pas-de-Calais, qui nous a toujours soutenus énormément. Et puis ensuite, en tant que conteur, il était dans notre commission de programmation, d'organisation du festival. Il a beaucoup œuvré, notamment pour que la langue picarde soit représentée dans le festival. Donc c'est quelqu'un vraiment, et puis qui a eu un gros travail de formation, ce qui fait qu'effectivement, on a décidé de lui rendre un hommage le dimanche 19 octobre à Lillers, qui était son fief, son territoire.
Alors comment ça va se passer justement cet hommage ?
Alors ça s'est mis en place effectivement, malheureusement j'allais dire dans l'urgence, on aurait préféré ne pas faire cet hommage évidemment. Et l'idée ça a été de se dire, ça va être une journée quasi complète, enfin c'est un dimanche, donc de 14h à 20h, ce qui fait, c'est assez long, ça va être sur la scène du théâtre Le Palace à Lillers, qui est la plus grosse salle à Lillers. Donc on va avoir toute une série, toutes les heures, une scène ouverte, différentes, sur un thème différent lié à ce que a pu amener Jean-Yves. Il y a le côté passeur d'histoire où on va avoir des gens qui ont suivi assidûment notamment les ateliers de la parole menés par Jean-Yves, qui vont se retrouver pour proposer une scène ouverte, une thématique sur la musique puisqu'il avait aussi cette pratique là, chant, musique, et donc il y aura conte et musique, il y aura esprit d'enfance parce qu'il y avait beaucoup de récits etc. qui étaient liés à l'enfance. Les paroles picardes évidemment ne seront pas oubliées, les contes au fil des pages, il a publié beaucoup d'ouvrages de contes, notamment au Seuil, aux éditions du Seuil, une scène ouverte liée plutôt à son activité dans Conteur en Campagne. Donc en fait il y aura une quarantaine de conteurs pendant toute la journée qui vont se relayer toutes les heures. Donc c'est un peu il y aura une buvette évidemment parce que là s'il faut tenir le coup quand même, donc on peut rester toute la journée, on peut rester une heure, on peut rester deux heures, on fait ce qu'on veut en fait. Voilà, c'est très libre en participation et on espère que ça permettra à la fois de donner la parole à des artistes amateurs et à quelques professionnels également.
Donc ça s'appelle Sur les chemins de Jean-Yves et donc ça sera le dimanche 19 octobre à Lillers. donc du côté du Palace, le lancement du festival Contents en Campagne, bon, on n'en a pas encore vraiment parlé, on n'a pas vraiment expliqué, mais le principe, ce sont des spectacles de contes dans des villages, des salles de fête de villages. Il y a énormément de propositions et énormément de villages, je pense une cinquantaine, soixantaine de spectacles,
ouais, une soixantaine, ouais, tout à fait.
L'ouverture, ça sera avec un spectacle qui s'appelle Bob et moi. Est-ce que tu peux nous en parler, Tony?
Oui, alors depuis trois ans, oui, c'est ça, on met en place pour l'ouverture un spectacle qui dresse des ponts, des liens avec les musiques actuelles. Voilà, on a eu les années le Flower Power il y a trois ans avec un spectacle autour de Janis Joplin. L'année dernière, on était plutôt sur une ambiance jazz Nouvelle-Orléans. Et cette année, on part carrément ailleurs, à Kingston, donc en Jamaïque, avec le spectacle Bob et moi, qui est pas seulement un spectacle biographique sur Bob Marley, hein, c'est pas un biopic à proprement parler, encore que, hein, on apprend beaucoup de choses sur le personnage, mais c'est un spectacle qui a la lisière entre le récit et le théâtre. Bob et moi, en fait, Alexandre Virapin, qui est le narrateur de cette histoire, il parle de son adolescence au départ et il explique comment la musique de Bob Marley, elle l'a sauvé en fait. Voilà, de ses errances, de ses envies même suicidaires, on va dire ça. Comment cette musique-là, elle a été une révélation pour lui. Et à partir de là, il va nous parler de Bob Marley, de son histoire, de sa musique, sans oublier parfois les côtés un peu sombres du personnage, quoi, qui n'était pas... Par exemple, il n'était pas très me too, Bob Marley. On va dire ça comme ça pour... voilà, mais ça n'est pas oublié non plus. Et c'est un spectacle voilà, qui est où le comédien se dédouble, ça, voilà, c'est, ça va à une vitesse folle et ça va plaire, je pense, à la fois au public adulte, mais aussi au public ado, notamment, qui ne connaît pas forcément la musique de Bob Marley, mais ce côté révolte dans la musique, ce côté aussi de s'émanciper par le biais de la musique, je pense, peut parler à tout le monde.
Quand le mur de Berlin a été détruit, on écoutait la musique de Bob Marley. Quand l'homme de Tiananmen s'est dressé devant la progression des chars dans sa ville, on écoutait la musique de Bob Marley. Quand Nelson Mandela est sorti de prison et qu'il a eu le prix Nobel de la paix, on a associé ça à la musique de Bob Marley. Partout dans le monde, quand les opprimés, les oppressés, les laissés pour compte ont besoin d'espoir, ont besoin d'optimisme, ont besoin d'un peu de joie de vivre, ils écoutent et ils chantent les chants de Bob Marley.
All pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships.
Donc ça sera le samedi 27 septembre à la Gorgue. Alors on parlait tout à l'heure un petit peu de langue picarde et de l'importance que ça avait pour le festival. Cette année, donc, il y a à nouveau une proposition, enfin deux propositions, hein, puisqu'il y a deux spectacles avec la même équipe. Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, on reçoit donc Christiane Calonne et Jacques Dupuis qui ont fondé la compagnie du Reste Ici avec deux spectacles. Le premier s'appelle « Haine punie de compte » et l'autre « Comme d'un shérif ». C'est une compagnie qu'on a déjà reçue dans le festival par le passé et je dois dire que en n'étant pas un spécialiste du Picard, ce que j'apprécie énormément dans leur manière de l'amener sur scène, c'est que on n'est pas dans un folklore en fait où souvent le Picard est réduit à des grosses blagues qui tâchent ou à quelque chose qui est vraiment sous le niveau de la ceinture. Parfois chez eux, il y a vraiment un appétit pour les mots, pour la langue, une poésie en fait qui transparaît. Évidemment, on peut rire parfois de leurs histoires, mais pas que. On est vraiment sur du récit, des contes dont l'objectif n'est pas forcément le rire, mais vraiment de nous faire goûter la langue, la profondeur. Et puis, comme en plus il y a une petite mise en scène, il y a un décor, il y a des objets, il y a aussi une manière de faire proche du clown. Eh ben, on est sur quelque chose de grande qualité qui donne, j'allais dire, qui rend hommage au Picard, vraiment. Voilà.
Écoutez, chéref, écoutez. Écoutez, tout chacun vaut, tout chacun un saint, tout chacun un teint, par nuit, qu'un taref. Écoutez, écoutez, chéref, écoutez.
quelque chose qu'on n'a pas dit aussi, la démarche de votre festival, de votre association, c'est pas, entre guillemets, d'amener la culture dans des endroits où il n'y en a pas. Le but, c'est aussi que la culture rurale, elle ressorte, elle s'exprime et puis elle soit mise en valeur.
Oui, c'est ça. De toute façon, l'idée, ça a toujours été de qu'il puisse donc y avoir une programmation de spectacles de qualité en milieu rural, que on puisse montrer une autre manière d'accueillir les spectacles, c'est-à-dire que en se reposant sur l'associatif, les bénévoles, l'idée c'est que les artistes soient accueillis chez l'habitant, souvent, pareil pour la restauration, l'hébergement, elle peut se faire chez l'habitant. Donc ça c'est très important. Puis on insiste beaucoup aussi pour que le public qui vient, il n'est pas forcément que rural. On a un public qui vient du village, des villages autour. Et puis parfois un public de festivaliers, on va dire ça comme ça, qui parcourt le festival et qui peut être urbain. Donc l'idée, c'est de montrer une autre manière aussi de proposer la culture en milieu rural, quelque chose qui soit à la fois accessible, mais qui n'en reste pas moins de qualité dans la parole menée. Donc les thèmes des spectacles peuvent être liés au rural, mais pas que. C'est très important aussi qu'on ait une multiplicité des thèmes. On peut pas, quand on est dans 60 villages avec un festival aussi long, c'est très compliqué de travailler sur un thème, et au contraire, puis sur un festival qui dure depuis si longtemps, l'idée c'est vraiment de montrer la diversité de la parole, et j'allais dire, peu importe qu'elle soit rurale ou urbaine, finalement, elle a sa place dans le festival.
C'est un festival interculturel aussi. Traditionnellement, il y a toujours un peu le Québécois ou la Québécoise de l'étape, c'est ça? Non, enfin, il y a souvent, en tout cas, des artistes canadiens et québécois qui viennent, qui sont invités au festival. C'est encore le cas cette année.
Oui, tout à fait. On accueille Arline Thibault, qui est une conteuse qui commence à avoir de la bouteille d'ailleurs, parce qu'on l'avait accueillie il y a pas mal d'années. Elle était plutôt une jeune conteuse du Québec. Et en fait, cette importance de la parole qui vient du Québec, elle est, on sent que c'est là-bas un terreau très important. Il y a aussi quelque chose d'audacieux, généralement, chez les conteurs québécois, qui ils sont souvent multi-instrumentistes aussi, ils amènent de la musique, ils partent dans du conte traditionnel, mais ils amènent aussi des récits de vie. Il y a cette habitude de faire participer le public aussi qui est assez importante chez eux. Et Arline Thibault ne déroge pas à la règle. Elle va durant le festival plutôt proposer des contes, légendes ou récits facétieux de son terroir, le Québec. Mais ça peut aussi parfois casser l'image du Québec, parce qu'on n'est pas non plus que dans le Québec, rural, mais aussi parfois sur des récits contemporains, des récits urbains également. Donc c'est toujours une rencontre intéressante, parce que ça permet au public aussi d'aller voir ailleurs, mais c'est pas que le Québec, hein. Alors la Belgique, c'est sûr que c'est un peu moins exotique pour nous dans le nord de la France, on a aussi des artistes qui viennent du sud de la Bretagne et de l'Alsace, et c'est parfois aussi exotique, en fait.
Faut pas sûr, parce que un des deux, c'est comme quand on regarde le soleil, ça s'imprime dans la rétine. Tout, je regarde après, j'ai comme un spot de les deux. Je suis pas tout sûr, d'accord. Tout ce que je regarde est laid.
On va parler aussi d'un autre spectacle, ça s'appelle La chemise noire, c'est proposé par Michaela Orio, c'est comme ça qu'on dit ?
Michaela Orio, ouais, tout à fait.
Un mot peut-être sur ce spectacle ?
Oui, c'est une conteuse qui est originaire de Venise, je pense qu'on n'a jamais eu de conteuse originaire de Venise au départ, alors maintenant elle habite en France, et La chemise noire, c'est ce qu'on appelle un récit de vie. C'est-à-dire qu'elle est partie des souvenirs de sa grand-mère. Sa grand-mère qui a eu une liaison avec ce qu'on appelait une chemise noire, c'est-à-dire un jeune fasciste. Voilà. Et donc, elle part des souvenirs de sa grand-mère pour aller vers quelque chose de plus universel. C'est souvent ça, les récits de vie. On part de quelque chose de personnel pour aller vers l'histoire, parfois avec un grand H. Et au travers des souvenirs de cette grand-mère qui tricotait des pulls, etc., qui était une vraie grand-mère aimante, etc., et ben, il y a les secrets de famille qui resurgissent. Et donc, cette montée du fascisme qui va être évoqué lors de ce spectacle.
Sujet politique, année d'élection, vous proposez des spectacles dans plein de communes rurales du Nord-Pas-de-Calais où on sait qu'il y a une montée de l'extrême droite dans les votes. Comment vous voyez un petit peu cette situation ?
Bah, de toute façon, l'idée derrière ce festival, ça a toujours été de toute façon de montrer la pluralité des paroles. Donc dans un esprit vraiment d'ouverture, c'est-à-dire que comme on l'a dit, les histoires elles viennent de partout, de tous les continents. Cette année encore on a par exemple Sylvie Mombo qui va nous proposer aussi des histoires venues d'Afrique. Donc voilà, on a toujours insisté pour que le milieu rural soit aussi synonyme d'ouverture et pas de fermeture, de repli sur lui-même. Ça ne veut pas dire qu'on ne souhaite pas mettre en valeur finalement le patrimoine rural. On en a parlé avec la langue, on en parle aussi avec les artisans. Il y a des produits locaux qui sont proposés à la dégustation à la fin des spectacles. Mais effectivement, pour nous, c'est parfois cet esprit d'être fermé, de repli sur soi, c'est quelque chose contre lequel on cherche à lutter, ou en tout cas on cherche à contrebalancer ça en amenant un parfum d'ailleurs dans le milieu rural. Donc oui, ça nous préoccupe à partir du moment où les esprits peuvent se refermer et où les gens se parlent plus. Hein, voilà, c'est ça ce qui se passe en milieu rural, mais pas que d'ailleurs. Hein, c'est que en fait, on est de plus en plus dans un système où les gens sont dans un système de pensée et ont du mal à s'ouvrir aux autres et à admettre qu'il puisse y avoir une autre manière de penser. Donc c'est ça notre lutte. C'est pas plus que ça, mais c'est déjà beaucoup.
Mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 stamattina. Mi sono alzato e ho trovato l'invaso.
On va pas pouvoir parler de tous les spectacles parce qu'il y en a énormément. On conseille aux auditeurs, aux auditrices de consulter le site internet, la belle plaquette qui a été éditée, de regarder un petit peu les différentes propositions, les différents endroits où c'est proposé. Peut-être un dernier mot avec toi, Tony, c'est sur le prolongement, parce qu'après le festival, vous proposez aussi à celles et ceux qui sont intéressés de s'initier au conte, d'aller un peu loin dans leur pratique. C'est quoi cet atelier alors ?
Oui, c'est ça. Depuis quasiment la création de ce festival, l'idée, ça a été de pouvoir que le festival reste pas un coup d'épée dans l'eau une fois le festival passé dans les villages. Donc depuis le démarrage quasiment du festival, on propose des ateliers, des formations courtes, longues, etc., qui permettent aux gens de se former. L'idée n'est pas forcément de former des professionnels, hein. L'idée, c'est de former aussi les gens à la parole pour que ils puissent, dans le cadre de associatif, dans leur village, dans leur école, dans leur centre social, auprès du jeune public, ils puissent utiliser cette parole, ce conte. Donc il y a, par exemple, dans le festival cette année, une initiation au conte, voilà, pour les gens qui veulent vraiment découvrir la discipline. Il y a une formation conte et gestes qui, là, s'adresse plutôt aux gens qui racontent déjà, mais qui veulent peut-être être plus à l'aise dans la gestuelle qui va accompagner les contes. Et puis un atelier pour les conter aux tout petits, qui va s'adresser là aux personnes qui sont en lien avec la petite enfance. Voilà, comment à partir d'une petite histoire, on arrive par exemple à créer des petits objets, des petites marionnettes, etc. pour animer son conte et l'adresser à ce jeune public-là. Voilà, mais ça c'est effectivement des formations qui donnent parfois ensuite lieu à des scènes ouvertes qu'on organise le restant de l'année, entre février et juin. On organise des scènes ouvertes qui s'appellent Histoire d'un soir, qui permettent à ces personnes formées de venir raconter devant un public.
Tony, merci. Tony Havard, je rappelle que tu es coordinateur du festival Conteurs en campagne pour les foyers ruraux 59-62. Conteurs en campagne, 33e édition, c'est du 27 septembre au 9 novembre. On ne peut que conseiller aux auditeurs, aux auditrices d'aller faire un tour, parce que c'est toujours des propositions de grande qualité dans des cadres vraiment, vraiment sympas, et on conseille vraiment chaudement ce festival. Merci à toi.
Merci à toi.
Bon festival.
Merci.
Nous sommes les sœurs grenues, nées toutes nues dans le bois barbu. Nous sommes les sœurs grenues, nées toutes nues dans le bois barbu. Nous sommes les sœurs grenues.